Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Édouard.
Bonjour frère Philippe.
Nous sommes dans l'article 5 du catéchisme. Jésus-Christ est descendu aux enfers, il est ressuscité des morts le troisième jour. Et nous avons évoqué lors de notre dernière rencontre que lorsque Jésus est descendu aux enfers, on a compris que l'enfer est partagé en trois. Tu disais le lieu du diable où Jésus n'est pas allé, le purgatoire où des morts se purifient, ce qui nous conduit à la prière pour les défunts, pour nous aujourd'hui encore, et un troisième lieu, ceux qui étaient déjà purifiés mais qui ne pouvaient pas encore avoir la vision béatifique de Dieu, qu'il attendait encore. Et tu disais qu'il fallait que le Christ vienne, descende aux enfers pour que ceux-ci soient libérés. Alors, parfois, je pense que les chrétiens peuvent se dire, mais d'où ça vient tout ça? Finalement, quels sont les fondements bibliques? Tu évoquais le livre des martyrs d'Israël, le livre qu'on connaît souvent, le livre des Maccabées, la famille Maccabée, pour parler de cette purification, de lieu de purification. Mais est-ce qu'on peut regarder de plus près ce purgatoire, c'est l'enfer? Qu'est-ce que l'Écriture en dit vraiment? Comment elle nous permet d'entrer dedans?
Alors, il est vrai que l'Ancien Testament, comme on l'appelle, la Bible hébraïque, là tu citais la Bible hébraïque grecque avec le deuxième livre des Maccabées à la fin du chapitre 12, où l'on dit qu'il serait superflu et sot de prier pour les morts si on n'envisageait pas un moment, une récompense, en particulier la résurrection des morts. Et les traditions donc hébraïques sont relativement sobres parce qu'on n'a pas beaucoup de précisions sur ce séjour des morts. L'Hadès, comme on l'a traduit en grec, selon la transcription que l'on faisait du mot Sheol, le Sheol, l'Hadès, eh bien, n'était pas particulièrement un lieu, je dirais, de vie, puisque au psaume numéro 6, il nous est dit: reviens Seigneur, délivre mon âme, sauve-moi en raison de ton amour, car dans la mort, donc dans le Sheol, nul souvenir de toi, dans le Sheol, qui te louerait? Donc c'est très net que la mort était considérée comme un lieu d'inaccessibilité par rapport à Dieu, par rapport aux vivants, par rapport aux anges. Et cette situation donc n'était pas, je dirais, très éclairante pour le peuple juif, tout simplement parce que la lumière du Christ n'était pas encore arrivée. Et on retrouve pareil au psaume 88, verset 11: pour les morts fais-tu des merveilles, les ombres se lèvent-elles pour te louer, parle-t-on de ton amour dans la tombe et de ta vérité au milieu de la perdition, connaît-on dans la ténèbre tes merveilles, en ta justice au pays de l'oubli. Donc très nettement, il y avait le sentiment que les âmes étaient un peu oubliées, et il y avait en même temps la certitude que ceux qui avaient commis des actes pécamineux très graves, eh bien, ne pouvaient pas revenir le lieu de perdition, et qu'il dit au psaume donc 88 que je viens de citer. Et le livre de Daniel parle aussi de ce séjour où il y a cet état que l'on appelle la damnation. Cet ensemble faisait que on gardait un regard relativement pessimiste sur la vie après la mort, et c'est Jésus qui, en venant parmi nous, nous a montré que d'abord il y avait des morts qui n'étaient pas réduits à rien, puisqu'on parle du fait que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Ça prouve que les morts, c'est pas quelque chose d'évanescent. et en disant que Jésus est descendu dans les régions inférieures et que celui qui est descendu est le même que celui qui est monté, nous montre un mouvement descendant de Jésus avec son âme après sa crucifixion, après sa mort, et en même temps un mouvement de remontée. Et c'est ce mouvement de remontée qui a, d'une certaine manière, joui d'une contemplation spéciale à travers les premiers écrivains apostoliques, c'est-à-dire en particulier saint Pierre. Saint Pierre a été le premier, et puis saint Paul, à se poser la question qui avait déjà été donnée d'une certaine manière dans les évangiles, en particulier lorsque dans saint Jean, au chapitre 5, on parle de cette voix. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc il y a vraiment une espérance très grande que cette voix va être entendue par les hommes qui sont ainsi dans cet état du Sheol, dans lequel il y a cette espèce d'incertitude de ontologique, je dirais. Et que dit après le texte de saint Jean ? N'en soyez pas étonnés, car elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Et donc là, il y a vraiment un partage.
Et pour tous une résurrection,
alors pour tous une résurrection,
pas la même destination.
Mais pas la même destination. Et donc des états eschatologiques différents, et qui a permis beaucoup de comprendre que le Christ, en descendant aux enfers, ne descendait pas au séjour des damnés, comme dit précisément le texte du numéro 633 du catéchisme de l'Église catholique. Jésus n'est pas descendu aux enfers pour y délivrer les damnés, ni pour détruire l'enfer de la damnation, mais pour libérer les justes qui l'avaient précédé. Donc ça, c'est quelque chose de très net qui a permis, qui s'appuie sur cette certitude que Jésus, d'abord, est bien descendu aux enfers. Et nous avions brièvement évoqué le chapitre 3 de la première épître de saint Pierre, en disant « Le Christ est mort une fois pour les péchés, juste pour des injustes, afin de nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. » C'est en lui qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui, jadis, avaient refusé de croire lorsque temporisait la longanimité de Dieu. Donc c'est très net qu'il y avait des âmes qui attendaient cette temporisation que Dieu avait permise. Et il est précisé au chapitre 4 en disant que tout le monde rendra compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle. Donc 4, verset 6. Donc une bonne nouvelle a été annoncée. Donc c'est le Christ victorieux qui est descendu aux enfers. Et c'est pour cela qu'il faut s'éloigner de ces courants théologiques un petit peu luthériens, d'au-delà du Rhin, les gens qui vivaient en Suisse, à Bâle, étaient un peu influencés par tout cela, et ont vu Jésus qui descendait aux enfers dans une situation de damné. Et c'est tout à fait faux. On voit bien qu'il est là en situation de prêchant, et donc en situation vainqueur, et pas du tout en situation de que celui qui subirait les peines de l'enfer.
Ah oui, cette phrase est extraordinaire. Oui. La bonne nouvelle a été également annoncée aux morts. Mais voilà. Prédication
aux morts. Si je puis dire. Mais voilà. Donc il y a eu quelque chose de très manifeste. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris aussi un autre passage de l'Écriture. C'est au 1 Corinthiens chapitre 3 où l'on dit que ce jugement, il va faire passer chacun à travers le feu. Et c'est au verset 11, de fondement en effet, nul n'en peut poser d'autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ, que si sur ce fondement on bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, l'œuvre de chacun deviendra manifeste. Le jour en effet la fera connaître, car il doit se révéler dans le feu. Et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur le fondement subsiste, l'ouvrier recevra une récompense. Si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Et donc, ce salut comme à travers le feu a fait penser aux âmes du purgatoire qui sont quand même sauvées, même si elles passent par cette épreuve du feu. Et c'est cela qui a aider certainement la communauté chrétienne en s'appuyant donc sur l'Écriture à reméditer en particulier le passage de la grande parabole de Jésus dans Saint-Luc lorsque il y a le mauvais riche
et le pauvre Lazare,
où on voit que le mauvais riche quand même communique, alors que on a bien compris que les âmes damnées ne communiquent plus et ne communiquent plus. Donc, or, le bon Lazare est à côté d'Abraham, ce qui prouve bien qu'il y a différents lieux. Il y a le lieu de communion avec Abraham, et puis il y a un lieu de souffrance à côté. Et donc, très nettement, avant que Jésus-Christ soit descendu aux enfers, il y a déjà ce partage. Et le mauvais riche arrive encore à communiquer un peu. Donc ça prouve que son sort n'est pas totalement joué. D'ailleurs, il intercède pour ses frères, il demande qu'on intervienne pour eux, puis la réponse est quand même assez dramatique en disant même si un mort ressuscite, ils ne croiront pas. Et justement, Jésus est ressuscité, et justement, des hommes de nos jours ne croient pas. Et donc, il y a vraiment l'application de la gravité de la chose.
Donc on a relu cette parabole comme un lieu, un état, on va dire, même intermédiaire de purification.
Un état intermédiaire
comme à travers le feu.
À travers le feu, exactement. Voilà.
Merci, frère Édouard.
À bientôt.